Et tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale officielle certifiée ISO 9002 du 99.1, du 102.4 et du 95.9 FM. Et oui, mesdames et messieurs, dames, bienvenue dans la matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Aïe, et c'est ma première de 2022. Je suis content. Oui, je suis content. Oui, il est content. Oui, il est content. Et alors, ça t'embête que je sois content? On n'a pas le droit d'être content en ce moment? Oui, j'ai envie d'être content. Voilà. Et je suis content de vous retrouver en vrai. Mesdames et messieurs, dames, aujourd'hui c'est bien sûr la formation principale de ce jour. Nous sommes déjà le vendredi 7 janvier de l'an 2022. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va parler théâtre. Mais pas que, vous verrez. On va développer, échanger autour de ce sujet parce que ce sujet est brûlant et chaud et d'actualité pour le jeune homme que je reçois ce matin. Mais en vrai, il baigne tellement depuis longtemps dans le domaine et dans cette grande famille qu'il aura très certainement, j'ai très certainement envie de le solliciter, qu'il nous éclaire, qu'il nous donne son avis sur la question, la grande famille qu'est la culture. Bonjour à toi, Simon Falguer.
Bonjour.
Merci parce que t'es matinalier, camarade, ça fait plaisir. Non, parce qu'on se fait des petites idées un peu préconçues sur les artistes, les gens du spectacle. Non, 8h, c'était pas un problème.
Non, oui, je pense que beaucoup d'artistes se lèvent très très tôt. C'est très bien le matin pour travailler, pour avoir l'esprit clair aussi.
Ouais, bien sûr, parce que, mine de rien, hier soir, était joué une pièce que tu as écrite. Ouais. À Évreux, bon, on va y revenir, hein, mais c'est pour planter le décor et je te remercie, c'est carrément classe. Amis auditeurs, auditrices, il nous fait le plaisir de venir et hier soir, voilà, il chapeautait sa première en terre hébroïcienne et on va y revenir. Voilà, les étoiles.
C'est ça.
Merci Simon d'être en notre compagnie. On aura bien sûr des bonnes petites pauses musicales qui vont bien, vous avez l'habitude, hein, on voyagera dans différents univers, il y a de la petite pépite qui va bien. Et puis, il n'y aura pas de répondeur. Et là, je suis mécontent parce que, mine de rien, on vous rappelle qu'au 02 32 62 57 32, il y a quand même moyen de laisser des dons de voix, de nous donner des rendez-vous qui étaient peut-être pas passés dans nos radars, des événements culturels, une petite exposition qui va bien, un rendez-vous où on va se retrouver, partager, échanger. Donc, n'hésitez pas à vous saisir du 02 32 62 57 32. Il n'y a pas de censure. Il faudrait vraiment être extrêmement grossier pour qu'on ne partage pas l'information que vous nous y lâcheriez. Voilà, amis auditeurs, auditrices, on perd pas de temps, vous avez l'habitude, avec la Mideuse, ça commence toujours par un petit titre de soul music. Aujourd'hui, on démarre par du 1974. J'en ai déjà dit trop. On en profite, on met du volume, on se laisse porter. C'est agréable à souhait, c'est patate, et que c'est bon. 74, je vous l'ai dit. The Spinners, c'est sur l'antenne de Principe Actif, c'est sur l'antenne d'HDR. Hey, merci de nous avoir choisi.
Oh,
The Spinners, sorti en 1974, je vous l'ai dit, 1974, ce qui nous fait pas moins d'un 48 ans d'âge déjà. Eh ouais, 48 ans d'âge, mesdames et messieurs, dames, une très belle cuvée en 74. Cette formation plutôt issue du Michigan et près de Detroit, comme ils aiment à dire nos amis et cousins américains. Voilà, le morceau, c'était You Sure Are Nasty, issu de l'album Mighty Love. J'ai regardé vite fait sur les internets, il doit avoir quelque chose comme 15 ou 16 albums, les Spinners. Ils ont commencé dans les années fin 50, ils ont explosé dans les années 60 et ils ont débordé dans les années 70. Ils ont traversé trois décennies. Bon, ils ont eu quelques chanteurs ou artistes ou personnels, acteurs du groupe qui ont bougé. Mais n'empêche que les Spinners, voilà, ont eu une très, 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 très belle carrière.
Le pire, il reste à venir.
Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, et ben il reste à venir. 8h10 à 9h et Benapi. Sur 99.1 et 102.4. FM, bien sûr.
Le pire, il reste à venir.
Je l'adore, il y avait longtemps que je l'avais pas entendu, celui-là, il me fait plaisir. Amis auditeurs, auditrices, on est en compagnie, si vous venez de nous rejoindre, de Simon Falguière. Et c'est carrément classe de sa part parce que. Parce que oui, il connaît bien Évreux. T'es natif d'Évreux, toi, Simon.
Ah oui.
T'es un pur produit hébroïcien.
Je suis un pur produit hébroïcien, ouais.
Voilà.
Mais là, grandi là.
100% made in EVX, comme diraient d'autres. Voilà, tu as déjà présenté des œuvres de ton idée, de ta création, avec ta compagnie Le Cas, hein, je crois. Hein,
ouais, exactement.
Donc tu es le directeur artistique que tu avais cofondé il y a quelques années. Et ce n'était pas la première fois que tu venais présenter quelque chose de toi. Mais là, en l'occurrence, c'est si frais que c'était hier soir. C'est ça?
Ouais, exactement. Et puis, c'est très émouvant pour moi aussi parce que, en effet, ça doit être la troisième pièce que je présente au Tangram, à la scène nationale. Et ce qui était très émouvant pour moi hier, c'est que c'est une pièce très intime, Les Étoiles. C'est une pièce très personnelle. On est venu la jouer au Cadran. Qu'est-ce que je raconte? Au théâtre Le Gendre, c'est le matin, faut que je me réveille. Au théâtre Le Gendre.
Tu étais au théâtre Le Gendre hier, donc ouais, ça devait être la première fois qu'une de tes œuvres passait dans cet écran.
C'était la première fois, ouais.
Vu qu'il a été fermé.
C'était la première fois, ouais. Et puis moi, c'est un petit théâtre, un magnifique théâtre italien. C'est un théâtre que j'ai connu quand j'étais vraiment gamin, et donc de me retrouver ici et de jouer une de mes pièces dans ce théâtre-là, c'était extrêmement émouvant. J'avais même des sensations des fois de dédoublement, quoi. Je me voyais enfant jouer sur ce plateau et maintenant à 33 ans rejouer dessus, c'est très 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 étrange, très beau pour moi, ouais. Très très beau.
Oui, parce que auteur, acteur, metteur en scène, tu joues dans cette pièce?
Alors j'ai fait un tout petit rôle. Je fais un tout petit rôle qui apparaît à la moitié de la pièce. Enfin, un tout petit rôle, c'est je joue Bergman. À un moment, il y a Bergman qui apparaît dans la pièce. Et j'arrive à peu près aux deux tiers de la pièce pour une scène qui dure 5 minutes.
D'accord.
J'aime bien jouer des tout petits rôles dans mes pièces parce que ça me permet de pouvoir manger un peu du feu avec les comédiens. De pas juste rester à l'écart et les regarder jubiler sans moi. Parce que je trouve que si on fait pas ça, au bout d'un moment, quand on est que metteur en scène, on devient un peu névrotique. Parce qu'on n'a pas de jubilation avec, ouais. Avec les autres acteurs et ça fait que les metteurs en scène, souvent, sont des gens très méchants.
Ah, d'accord. Bah alors, du coup, justement, hier, je regardais sur les internets, on parlait en équipe, à la radio, on abordait la question, et on voyait dramaturge, on voyait metteur en scène. En fait, quels sont les vrais termes? Est-ce qu'il y a vraiment des catégories? Est-ce que c'est en fonction du genre? Est-ce que, voilà, quand on est, pour moi, auteur, on écrit, on réfléchit, on crée cette œuvre. Metteur en scène, on met en place, on organise tout, on est le directeur de tous les aspects, pour faire court. Hein. Est-ce que ce sont les vrais termes? Est-ce que ce sont les bons termes?
Oui, c'est les bons termes. C'est les bons termes. En effet, après, il y a eu plein. Il y a toute une histoire des termes.
Ouais.
Le terme de metteur en scène, il est né au XXe siècle. Metteur en scène, metteuse en scène. Donc, c'est l'équivalent du réalisateur pour le cinéma, au théâtre. Donc, ça, c'est le vrai terme. Auteur aussi. On dit des fois dramaturge. Dramaturge, c'est un peu la. Comment on dit? La racine allemande. Et puis après, il y a eu toute une génération aussi qui ont refusé le terme de metteur en scène, ce qui trouvait ça trop trop pompeux, et qui remplaçait par régisseur, ce qui venait aussi de l'Allemagne et de Brecht.
Merci. Troisième œuvre que tu venais présenter à Évreux, tu as avant tout, je crois, écrit et était auteur avant de, sur le, au bout de quelques années, même si tu as dû prendre des cours gamin à Évreux, j'imagine, de comédie sur les planches, mais c'est bien après que tu as pris vraiment des cours en terre parisienne, à capitale, comme diraient certains, pour affiner sûrement ta personne et ce jeu d'acteur. Il y a un domaine que tu préfères ou pour toi tout est lié de toute manière?
Alors je pense que de plus en plus tout est lié, mais je crois qu'à la base, au tout début, je dirais que ma première corde, ce qui est vraiment mon essence, ouais. La chose la plus évidente, c'est le travail d'acteur. C'est le travail d'acteur et après j'ai l'impression d'être un acteur qui écrit pour d'autres acteurs et pour des actrices évidemment. C'est-à-dire, mais je pense que au départ c'est ça. D'ailleurs, quand j'écris, maintenant je passe quand même une grande partie de ma vie à écrire, mais quand j'écris, je passe toujours par la voix. C'est-à-dire, j'écris toujours à voix haute. Je peux pas écrire dans ma tête. Ça passe toujours par l'oralité. Et selon comment ça sonne, eh ben, je me dis là, c'est bon. C'est comme Flaubert, il faisait ça. Il avait un gueuloir, Flaubert. Il avait un gueuloir dans sa maison où il venait gueuler ses textes pour voir si la phrase pouvait bien claquer, bien sonner dans les airs. Et ben moi j'ai le même rapport. J'ai besoin que ça sonne. C'est comme de la musique aussi, le théâtre.
N'est-ce pas là un petit avantage et un point intéressant que justement avoir cette qualité et ces connaissances du jeu de scène et d'être sur les planches pour écrire pour d'autres.
Je pense, tu
es extrêmement bien placé.
Je pense, et puis je pense aussi pour diriger les acteurs après et les actrices au plateau. Parce que pour pouvoir bien diriger les acteurs et les actrices, il faut comprendre quand même des petits rouages. Et le fait de passer au plateau, ça permet de comprendre les endroits où ça bloque, les endroits où comment on parle à un acteur ou à une actrice pour que ça aille plus loin, pour que la chose se transcende. Moi, ça me passionne. J'adore les répétitions. Je pense que je pourrais passer ma vie entière en répétition. Je préfère d'ailleurs aux représentations presque. Parce que les représentations, il y a un endroit où on vient montrer son travail. C'est beaucoup plus angoissant. C'est là où tous les doutes naissent. Les répétitions, moi, je pourrais passer ma vie à répéter des scènes. De toute façon, c'est comme le cosmos, c'est comme les étoiles, c'est infini, quoi. Le travail avec les acteurs et les actrices.
Justement, je me posais la question, Simon. Parfois, lorsque au départ, dans le milieu du cinéma, un film est projeté pour une première, les réalisateurs, ils ont leur petit truc, ils se mettent dans un endroit, ouais. ils veulent pas le voir, ils attendent de voir les visages à la sortie quand les gens ouvrent la porte. D'autres se cachent au premier rang ou au tout dernier rang pour essayer de voir les réactions. Toi, t'as ton petit truc à toi de tes petites habitudes quand il y a une première,
Oui, bien sûr. Alors moi, en règle générale, je vois les deux premiers tiers du spectacle en salle, puis après, je vais me préparer pour pouvoir rentrer en scène. Mais c'est ce que je vous disais au début, enfin ce que je te disais au début, c'est que ça peut rendre fou. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait plus ce qu'on voit. On sait plus ce qu'on voit et on est complètement angoissé parce que il faut savoir, mais comme je pense beaucoup de gens dans beaucoup de métiers, mais on a une envie, c'est que les gens nous aiment aussi. Et on passe par plein de phases où on se dit, c'est ce que j'ai fait, c'est magnifique. Et puis 20 minutes après, on se dit, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. Et on se mange les ongles, puis les doigts, puis le bras. Enfin, c'est voilà. Alors après, est-ce que j'ai des petites habitudes? Non, souvent, j'aime beaucoup passer dans les coulisses avant que ça commence. Parce que je trouve que c'est très très beau les coulisses. D'un théâtre avec toutes les mises, toutes les préparations, tous les costumes qui sont là, les acteurs qui se préparent, on dirait comme une armée en silence qui se prépare à rentrer en scène, ça j'adore ça. Donc je passe là-dedans, j'embrasse tout le monde, je dis merde à tout le monde, et puis après je vais me mettre en salle et je ronge mon frein.
Surtout en terre hébroïcienne, on rappelle où tu es né, où tu as grandi, où tu as passé des heures et des heures, hein, c'est une longue histoire familiale que le théâtre te concernant.
Ouais.
Forcément, ça revête quelque chose de particulier parce que peut-être que des membres de ta famille n'avaient pas encore vu cette œuvre Les Étoiles, on va y venir là dans quelques instants, qui a déjà été jouée peut-être en terre, dans le Nord, parce que il y a une espèce de lien qui maintenant, oui, le Tangram, oui, pardon, la scène nationale t'accompagne et est un repère pour toi, mais il y a une forme de conventionnement, de partenariat bien précis et spécifique aussi avec la scène nationale de Lille, le théâtre.
Oui, le Centre Dramatique National de Lille. Oui, j'étais artiste associé là-bas et on a joué Les Étoiles là-bas. On a joué à Lille, on a joué à Toulouse. On l'a créé à Paris, ce spectacle, Les Étoiles, au Théâtre National de la Colline, chez Wajdi Mouawad. Et puis là on est en pleine tournée normande, donc on a vraiment tourné un peu partout en Normandie, donc ça c'est trop bien. Parce que c'est vraiment, vraiment ma terre.
Et donc la famille, elle venue hier pour la première ou ce soir? Alors, elle viendra? Parce que attention, hein, amis auditeurs, auditrices, là, je vous ramène s'il vous plaît l'auteur, comédien des étoiles, et ce soir ça rejoue.
Ça rejoue ce soir et ça rejoue demain.
Voilà, hey, s'il te plaît.
Et alors mon père est venu ce soir, c'était la première fois qu'il le voyait, enfin ce soir, hier soir, et c'était la première fois qu'il le voyait. Donc c'était pour moi très très émouvant, parce que il faut bien comprendre que mon père a dirigé pendant 31 ans le théâtre d'Evreux. Et donc quand on dit que j'ai grandi dedans, j'ai vraiment grandi dedans, quoi. Je jouais à cache-cache dans la salle du théâtre à Italienne. Mon premier souvenir, je dois avoir 4 ans, parce que c'est en 1992, et c'est un souvenir de répétition. Donc je vois mon père répéter dans ce petit théâtre.
Ce lieu est magique.
Ce
lieu est magique, ouais. C'est moi. Allez, amis auditeurs, parce que elle est copain rouennais, je sais, vous taillez un peu dans le 27, nanana, 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 nanana. Vous avez vu, j'ai fait des nanana, 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 nanana. Je suis resté poli. Je sais que des fois, ça prend un peu de haut, c'est de bonne guerre. Un théâtre pareil, similarité partout en France. Non, il a un truc, c'est un truc.
C'est un petit Stradivarius, quoi.
Ah ouais, c'est magnifique.
Il est petit, magnifique. Et puis l'acoustique, il sonne merveilleusement.
J'ai vécu moi-même des moments magiques de représentation
et de
concert. Bah oui, quel endroit.
Quand il a réouvert, c'était vraiment une émotion folle, quoi, de pouvoir revoir cette salle qui a gardé en plus son jus.
J'allais te poser la question.
Ouais, la salle à l'intérieur. Alors après, tout le tour, moi je le reconnais pas, quoi.
Oui,
ça a complètement changé.
Bien sûr.
Et puis ça a perdu du côté un peu vétuste que moi j'aimais bien. Je trouve qu'il y avait une grande poésie. Mais l'intérieur a gardé quand même ses couleurs, son jus. Et c'est une splendeur.
Et
avec une taille très particulière.
Ah oui, il est magnifique. On n'en dira pas davantage. On va revenir sur Les Étoiles, cette œuvre qui a vu Simon hier la présenter, qui va être jouée aujourd'hui et demain. On va s'accorder une petite pause musicale. Je te propose qu'on partage ce que tu m'as soumis. J'aime à demander à nos invités ce qu'ils ont envie d'entendre dans la matinale. Donc, on le balance et puis derrière, on le partage plutôt même. Et puis derrière, on y revient. Amis auditeurs, auditrices, vous êtes sur Principe Actif, vous êtes sur HDR, on est avec Simon Falguer. Ça parle théâtre ce matin, ça parle œuvre, ça parle création, ça parle acteur, ça parle comédie, ça parle jeu de scène et c'est appréciable. Merci de nous avoir choisis une fois de plus. Et pour la peine, j'ai un mot au début, c'est pas bien de parler en même temps que la chanteuse. J'ai teasé. Voilà, amis auditeurs, auditrices, on est bien.
La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé. Et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser.
Tourner comme une âme en peine.
Emilia Clarke, La nuit n'en finit plus.
C'est l'or, il est l'or. L'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
Alors pourquoi ce choix, Simon, Petula Clark, on est en 66, hein, si je ne m'abuse.
Ouais,
Le morceau est magnifique, hein. Je l'ai découvert hier soir quand
ouais,
tu me
c'est
le
soumets. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est super beau. J'adore ce morceau, je le trouve absolument magnifique. Et je pense, bon, déjà, c'est parce que c'est un morceau que j'aime énormément. Et puis je pense que c'est un morceau qui doit me rappeler, enfin, qui me fait penser au personnage principal des Étoiles, justement, qui s'appelle Zosha. Qui est la mère du jeune Ezra, qui est l'autre personnage principal des Étoiles. Bon, j'en parlerai plus précisément après, mais
c'est
mais
très bien.
Du coup, Zosha, elle meurt au début de la pièce et on la suit comme un fantôme pendant toute la pièce. Et elle fume des cigarettes tout le temps. Et elle veut pas qu'on la dérange la nuit. Elle veut rester seule dans sa solitude, dans l'obscurité de la nuit. Et c'est ce que raconte Petula Clark un peu dans cette chanson de cette solitude et de fumer des cigarettes et regarder la lumière de la lune dans un jardin, que tout est bleu. Je trouve ça vraiment bouleversant.
Très belle chanson que je découvrais et qui restera dans le PC pour très certainement entrer dans l'automate. Justement, les étoiles que tu as écrit il y a bientôt maintenant 2 ans, Simon, peut-être 3.
Ouais, exactement, ouais. 2 ans.
2 ans. Donc en fait, t'étais prêt à la jouer il y a 2 ans quand arrive la Covid en fait.
Exactement, c'est ouais. Ça. En fait, je l'écris. Comment ça se passe, c'est que je joue une pièce qui s'appelle Le Nid de Cendre, dont on a joué une partie ici à Évreux aussi au Cadran, qui est une épopée théâtrale avec 17 comédiens, 50 personnages, enfin vraiment une grosse folie. Et je joue ça dans le Nord justement, à côté de Lille, à Tourcoing. Et Wajdi Mouawad, qui est quelqu'un de très important pour moi et puis pour notre génération.
Qui est quoi lui?
Alors Wajdi Mouawad, il est auteur aussi, metteur en scène.
D'accord.
Comédien aussi. Et c'est le directeur du Théâtre National de la Colline, qui est le théâtre national qui est des écritures contemporaines.
D'accord.
Et il vient voir le spectacle donc à Tourcoing, le Nid de Cendre, et en sortant il me dit: je veux que tu fasses ta prochaine création dans mon théâtre. Donc il me fait une commande et j'écris à ce moment-là Les Étoiles l'été qui suit. Pour pouvoir monter une production pour l'année suivante et pour pouvoir monter une pièce à la Colline. Et quand on a créé Les Étoiles, eh bien on est arrivé, comme tu dis, en plein deuxième confinement. On a créé une pièce sans pouvoir la jouer. C'était il y a 1 an.
Ouais, et malheureusement, je voudrais qu'on reste sur Les Étoiles, mais je crois que pour beaucoup d'auteurs, ça a été le cas. Il y a des pièces qu'on n'a pas vues.
Bien sûr, bien sûr.
Pensées, réfléchies, répétées, qu'on ne verra pas.
Ouais, et puis ce qui a été, je crois, le plus dur pour nous tous et toutes, on pensait jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier confinement, bon, ça, on s'y est tous fait, on a tous accepté. Et puis ensuite, on s'est remis à répéter, croyant que ça allait pouvoir marcher, puisque ça avait réouvert, genre, en septembre, octobre. Ça a refermé. Ensuite, on a recru qu'on pouvait jouer à la mi-décembre. Ouais. C'était pas possible. Ça, c'était le pire, je crois. Ouais. Le 15 décembre, ça a été vraiment le pire. Et puis finalement, ça a pu réouvrir, mais péniblement. Peut-être qu'on en reparlera après, ouais. Mais c'était, ouais, c'est des périodes extrêmement difficiles, hein. Ça, c'est clair. Mais pour tout le monde.
Bien sûr. Ezra, personnage principal, garçon, fille?
Alors,
peu importe, justement.
Ouais, peut-être peu importe. Ezra dans la pièce quand même est un garçon. Alors, pour raconter un petit peu
simple, mais je n'aime pas ce terme-là.
Alors, Ezra est pas spécialement simple.
D'accord.
Non, Ezra est pas spécialement simple. En fait, pour raconter l'histoire commence par la mort de la mère, comme à peu près tous les contes. Très souvent, les contes commencent par la mort de la mère et tout le monde doit faire quelque chose pour dire adieu à cette femme qui était vraiment, dont je parlais tout à l'heure, Zosha, qui était vraiment le pilier de la famille. Le frère de Zosha, qu'on appelle l'oncle Jean, qui est le personnage simple, qui est une sorte d'idiot du village, mais qui en fait est peut-être le personnage le plus tendre et le plus intelligent de toute la pièce. L'oncle Jean fait de l'art brut et il doit faire le cercueil pour y mettre sa sœur. Le mari de Zosha, donc le père d'Ezra, est jardinier et doit planter des fleurs partout dans le jardin. Et Ezra, qu'on considère comme un poète, comme le poète de la famille, doit écrire l'éloge funèbre pour dire adieu à sa mère. Et le jour des funérailles, il perd les mots. il n'arrive plus à parler. Il se met alors à pleuvoir. Il y a une terrible inondation qui recouvre tout le village comme un lac de chagrin. Et Ezra va s'enfermer dans sa chambre et va vivre comme une sorte de coma. Et dans cette immobilité, il va vivre un voyage métaphysique et poétique jusqu'aux étoiles pour retrouver les mots qu'il a perdus. Et là, il va retraverser plein de temporalités, il va retrouver sa mère, etc. Et le personnage de la mère, qui est comme un fantôme, Zosha, est vraiment l'axe sur lequel tourne toute la roue de la pièce.
Sans en dire trop, c'est une voix off dans la...
Zosha ?
Ouais.
C'est une actrice.
C'est une actrice qui a joué.
C'est une actrice qui s'appelle Agnès Sourdillon. Qui est moi une actrice que j'ai énormément admirée et là avec qui je travaille, donc ça, alors ça c'est très émouvant aussi.
Ah, c'est pas mal ça.
Ouais.
Pour de vrai. C'était quelqu'un que tu appréciais, que tu kiffais comme on dit. Et là tu l'as fait jouer.
Ouais, exactement.
Classe.
Ah ouais, c'est super et je lui ai envoyé le texte, on se connaissait pas et elle a aimé, elle a tout de suite aimé le texte, on s'est retrouvé dans un café, elle m'a dit c'est bon j'y vais.
Alors comment ça se passe d'ailleurs, on oriente vers un rôle ou en envoyant le texte à quelqu'un qui a quand même parfois un CV ou un peu de pratique et d'expérience, on veut voir si elle accroche le texte et puis on lui laisse potentiellement choisir ou tu devais avoir en tête son rôle.
Non, on propose un rôle. On propose un rôle parce que, alors en effet, ça fait quelque chose de travailler avec des comédiens très expérimentés. Il y en a deux là dans cette pièce-là. Il y a Agnès Sourdillon qui a vraiment une grande carrière dans le théâtre public. Qui a joué la Cour d'honneur d'Avignon trois fois, je crois. Enfin, voilà. Et puis il y a John Arnold aussi, qui est un acteur du théâtre public assez important. Et non, quand on propose une distribution et un rôle pour que la personne puisse lire la pièce en se projetant le rôle qu'on lui propose pour voir si elle accepte ou pas. Et quand je lui ai proposé, elle a deux rôles dans la pièce, le rôle de Zosha et le rôle de la déesse de la mer, qui est une petite marionnette qui accompagne Ezra pendant tout son voyage. Et quand je lui ai proposé, elle m'a dit oui. J'étais à la fois ravi et ému et en même temps stressé. Hein. La première répétition, on n'emmène pas large au début.
Je te remercie. J'ai un petit peu lu le dossier de presse concernant les étoiles. Alors, il y a des mots qui me parlaient assez facilement et j'ai beaucoup aimé la présentation que tu en as faite il y a quelques instants qui remplit de poésie, en fait, clairement. C'est
vraiment un voyage poétique,
ouais, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut dire un conte poétique ou un voyage poétique, mais en tout cas, ça y correspond pleinement. Et donc, je lis ça. Je lis qu'il y a plusieurs codes qu'on retrouve. Hein. Du drame, de la comédie, de la farce, l'épopée et oratorio. J'ai pas voulu googler. Je me suis dit, il faut que je vois ça avec Simon.
Ça, c'est des grands mots pour les dossiers de presse.
Ouais, c'est quoi ça?
Non, il n'y a pas d'oratorio.
Il n'y a pas d'oratorio. Je te jure que c'est indiqué. Hein.
Je te crois.
Voilà, je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai même pas voulu aller voir ce que ça voulait dire. Je me suis dit, ouais, le mot, il est barbare.
C'est pour impressionner.
Et qu'est-ce que c'est qu'une pièce baroque? Alors,
par contre, c'est vrai.
Oui, mais c'est parce que c'est un style. C'est un style? C'est une manière de faire.
Non, ça c'est moi qui appelle ça pièce baroque. En effet, il y a du théâtre baroque. Le théâtre baroque, c'est vraiment un style de gestuelle, de façon de parler, du XVIIe siècle, etc. Moi, c'est pas du tout du théâtre baroque ce que je fais, mais je dis que c'est une pièce baroque parce que baroque, ça vient de barocco, ça veut dire perle irrégulière, et c'est l'idée que c'est vraiment une pièce où c'est une pièce irrégulière, quoi. C'est une pièce qui est un collage de plein de choses, plein de registres différents. On passe, même en termes de mise en scène, en termes de jeu, on passe dans énormément d'univers différents. Et j'ai voulu agglomérer tout ça dans une même pièce, ce qui donne un objet esthétique, poétique, un peu difforme, un peu particulier, et que je considère comme baroque, à l'endroit de l'irrégularité.
Merci de ce détail et de cette explication de texte. Hein. Simon, si vous venez de nous rejoindre, amis auditeurs, auditrices, Simon Falguer, qui est venu présenter Les Étoiles, pas plus tard qu'hier, au Théâtre Legendre. C'est rejoué aujourd'hui et demain au Théâtre Legendre encore.
Ouais, exactement. On joue aujourd'hui à 20h et demain à 17h, le samedi.
Voilà, donc il y a moyen de vous rapprocher du Tangramme ou de la scène nationale Évreux-Louviers, voilà, pour choper le ticket qui va bien, le sésame, le fameux sésame. Et puis, et venir en profiter. Ce matin, vous le découvrez, c'est un enfant de la balle, c'est un hébroïcien qui est né, qui a grandi, qui a vécu dans les théâtres et qui aujourd'hui, et c'est beau, et ben voilà, ça semble être sa passion. Ça, je crois que tu peux pas me dire autrement. Je ne connaissais pas, moi, mes auditeurs et auditrices.
C'est toute ma vie.
Ouais. Bah ouais. Ouais. Et voilà, il est tout sourire à venir nous en parler. Allez, on s'écoute une petite pause musicale et on revient parler culture plus largement. En tout cas, les étoiles, on l'a entendu. C'était hier soir première, aujourd'hui, demain. Encore et en terre hébroïcienne.
This week our theme is bamboo.
One time for my brother Bamboo. You've been long overdue to hit him with some brand new. Ooh. So what you're doing now, you've been there, done it. Only difference is it's time to let's go. One time for my brother Bamboo. You've been long overdue to hit him with some brand new. Ooh. So what you're doing now, you've been there, done it. Only difference is it's time to let's go.
Going, going, gone. We go beyond the limits while most don't know what's going on. The rest of us are on the edge, barely holding on. Fuck it, man, I'm going long. Superstition, throw the bomb. Run the route straight out. Leave them burning like Richard Sherman. Game over, close the curtain. Stone cold, yeah, I know they hurting. But they ain't certain, they wishy-washy. That's concerning. My position, stay consistent. Changes in conditions can't be instant. Even tempered, keep it natural, mystic. Equidistant, spread them out so I can vet them out. I see this shit for what it is and find a better route. If it never levels out, I'll pull the shovels out and dig a plateau. At this, I'm a natural king up in my castle. Straight Tabasco, they get an asterisk like an Astro. Don't be an asshole.
One time for my brother Bamboo. You've been long overdue to hit him with some brand new. Ooh. So what they're doing now, you've been there, done it. Only difference is it's time to let's go. One time for my brother Bamboo. You've been long overdue to hit him with some brand new. Ooh. So what they're doing now, you've been there, done it. Only difference is it's time to let's go.
Grab the mic and wreck shit. Always on my next hit. Dropping science, walking with the giants, better exit. Knowledge is power perfected. Wisdom, put it all back in perspective. Analog or digital, religious or just spiritual. Either way, I'm killing it. They gon' need a miracle. Superstition on the beat. Everything's imperial. Vintage if you're nasty. Dropping it in stereo. Those who know, know. Never so, so. Always on point. Get your GoPro. They try to heat it up, but my flow is so cold. They wanna shut me down, so I had to go rogue. Sorry, have a hard time doing what I'm told. Never in the box, I'm taking the high road. Is that a metaphor? The reason my eyes flow. Bamboo, the Asiatic, let's go.
One time for my brother Bamboo. You've been long overdue to hit him with some brand new. Ooh. See what they're doing now, you've been there, done it. Only difference is it's time to let's go. One time for my brother Bamboo. You've been long overdue to hit him with some brand new. Ooh. See what they're doing now, you've been there, done it. Only difference is it's time to
le mec s'appelle quand même Bamboo des Asiatiques. Me demande pas d'où il sort, si d'Atlanta, je peux juste te dire ça, Bamboo da Asiatique. C'est du 2022, amis auditeurs, auditrices, il en fallait quand même un petit peu dans cette matinale du matin qui va bien. L'album s'appelle Reclamation et le morceau est en featuring de Superstition, qui avait il y a très longtemps rappé avec Rockin' Squat. Voilà, et ça avait fait un morceau incroyable mais vrai. Bref, Return of the Asiatic, c'est le nom du titre et l'album se nomme, lui, Reclamation de Bamboo. Bout des Asiatiques.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Dans le pire reste à venir, amis auditeurs, auditrices, en compagnie de Simon Falguer, hein, qui me fait le plaisir d'être là ce matin de bonne humeur et à la bonne heure pour venir parler et présenter sa dernière œuvre en date, Les Étoiles, dans laquelle, bah, œuvre qu'il a créée, qu'il a écrit et dans laquelle il y a un petit rôle. Voilà, il nous l'a expliqué en première demi-heure, c'est qu'il aime à se retrouver aussi sur les planches et voilà, pour mille raisons, jouer des coups de manière souriante, bien sûr, avec ses acolytes sur scène. Voilà, Simon Falguer, en notre compagnie ce matin. Simon, 33, 34 ans, hein, sans être indiscret.
33 ans.
Ouais, tu as déjà plusieurs œuvres à ton à ta personne, je sais pas, dans ta carrière, comment le qualifier. Vous êtes nombreux en France à être si jeune et à avoir déjà produit autant de. C'est pas pour te donner un côté pompeux et tout. C'est moi, c'est de la vraie curiosité. C'est-à-dire, j'ai l'impression toujours que les auteurs, ils sont à un certain âge, ils sont établis. 33 ans, c'est pas ta première. C'est peut-être pas si commun.
C'est peut-être pas si commun. Après, il y a quand même, il y a toute une génération de. En fait, comment dire ça ? J'ai l'impression que dans la période actuelle, avant, je dirais ça. Je dirais que avant, il y a 30-40 ans, on faisait confiance à des jeunes gens, même beaucoup plus jeunes. Les Chéreaux, tout ça, ils ont Patrice Chéreaux, Mouchkine, etc. Ils sont sortis vraiment à 24 ans, 25 ans. Enfin, c'était beaucoup plus jeune. Et maintenant, c'est à partir de 30 ans qu'on a fait nos gammes. À partir de 30 ans, on peut commencer à avoir une reconnaissance et avoir des moyens de faire ses pièces. Moi, je suis en compagnie depuis maintenant plus de 10 ans. Ça fait 12 ans que je dirige la compagnie Le Cas. Et on a fait beaucoup d'actions culturelles, j'ai monté beaucoup de spectacles, on a beaucoup, beaucoup galéré. Et maintenant, je commence à avoir les moyens de monter mes œuvres. C'est pas dit que ça tienne, hein. Ça peut toujours s'arrêter. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai cette chance gigantesque de pouvoir avoir des moyens pour rémunérer mes comédiens et pour essayer de faire un peu les folies de ma tête sur des plateaux de bois.
Magnifique présentation. Simon, justement, est-ce que tu as un attrait particulier pour un genre? Est-ce que, on aime à imaginer qu'un acteur, je sais pas si c'est vrai, tiens, tu pourrais me conforter ou non dans cette remarque, on disait que, un jeu d'acteur, c'est facile de faire le méchant, c'est facile de faire le triste, et on raccourcit, hein, bien sûr. On comprend un gros entonnoir. C'est plus compliqué de faire le marrant. Est-ce que déjà c'est vrai dans le jeu, mais au-delà de ça, dans l'écriture, tu préfères bosser un thème, un style, ou est-ce que bien au contraire, t'as envie d'être complètement libre et voilà, comme à l'image de ton âge, où on a encore, déjà on a une belle expérience, mais on a encore 1000 choses à vivre, et ben on a envie d'explorer 1000 sujets ou genres.
Bien sûr, pour répondre à tes questions, d'abord sur la question du comique tragique par rapport au comédien, je pense que il n'y a pas une chose qui est plus dure que l'autre. Ouais, je pense que tout est difficile et que ça se joue beaucoup sur des affaires de nature aussi. Il y a des comédiens qui ont un sens inné du rythme comique, c'est inexplicable. Et puis il y a des comédiens, des comédiennes qui vont avoir un sens du tragique inné et c'est inexplicable. Et après c'est aussi intéressant quand même de pouvoir proposer à un acteur qu'on considère plutôt comme un acteur tragique, de pouvoir aller travailler sur le comique et inversement, de pouvoir déplacer les genres. Mais ça c'est très mystérieux. Qu'est-ce qui fait qu'un acteur est un grand acteur comique? C'est très mystérieux. Et pour un grand acteur comique, faire rire, c'est pas du tout difficile. C'est beaucoup plus difficile pour ceux qui n'ont pas ce talent, ce génie là. Donc ça c'est pour répondre à ta première question. Et puis après, sur la question des registres par rapport à l'écriture, grosse question. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, il y a une chose sur laquelle je ne déroge pas, c'est que je veux raconter des histoires. Je veux raconter des histoires, raconter des fables. Et la façon dont j'écris, c'est une façon où, justement, on passe d'un registre à l'autre au sein d'une même pièce. C'est-à-dire que je mélange le registre comique et le drame et le mélodrame. Je fais jamais que du mélodrame ou que du comique.
Ah, pour l'instant, dans ce que tu as présenté, il y a toujours eu différents aspects au sein de tes œuvres.
Ouais, quasiment. D'accord. Ouais, à chaque fois. Parce qu'en fait, ça me permet. Je trouve ça. C'est une vieille technique. Hein. Shakespeare faisait ça. Je l'ai piqué à plein de gens. Mais en fait, c'est pas mal parce que ça permet au public de pouvoir vivre une émotion. Et en même temps, de pouvoir rire au milieu de l'émotion, ce qui lui permet de respirer. Après, je pense que j'ai une nature qui tendrait assez facilement vers la mélancolie. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique. Donc, j'écris des choses qui sont pas toujours très gaies. Enfin, du moins, qui sont teintées d'une grande mélancolie. Mais la seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir faire avaler la pilule de ma mélancolie au public, c'est de le faire rire. Et je pense aussi que ça me vient, là, je réfléchis en parlant, mais je pense que ça me vient aussi beaucoup de... J'étais complètement fasciné quand j'étais gamin par Chaplin. Ah ouais, vraiment...
Non, mais je suis grand fan, Simon.
Ouais, Chaplin, non, c'est... Mais... Chaplin, c'est pour moi, c'est le génie, peut-être un des plus grands génies du XXe siècle. Et quand je regardais ses films, c'est ça que j'adore chez Chaplin. C'est qu'en fait, tu ris pendant tout le film, mais en même temps, t'as la gorge serrée très très fort, quoi. Et il a ce don-là de passer. Alors, je suis très très loin du génie de Chaplin. Hein,
mais, c'est pas ça.
Mais il a cette force-là. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas.
Merci pour ces attraits de ta personnalité et de ton travail de créateur et de créatif, pardon. Y a des sujets quand même que tu as envie de traiter. Tu dis que tu as envie de raconter des histoires. Elles peuvent être contemporaines parce que de toute manière, les étoiles avec au départ le au revoir maman, c'est quelque chose. C'est dans nos histoires passées, mais aussi présentes. Mais est-ce que tu es capable de, ou est-ce que tu as envie plutôt de parler de quelque chose de très très actuel, très contemporain, si tu ne l'as pas encore fait par ailleurs, pardon.
Oui. Alors, je pense qu'il y a dans ce que j'écris, il y a beaucoup de références à ce qui se passe actuellement. Mais par contre, je veux toujours que ça passe par le prisme du conte et le prisme de la poésie. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas parler de l'actualité sans filtre.
Ouais.
Et puis je trouve qu'on est dans une période en plus où on est submergé par l'actualité. On a que ça de l'actualité. On est entouré, on se noie dans l'actualité avec les chaînes en continu, avec les réseaux sociaux, etc.
Donc, on a besoin de rêver.
Donc ouais, moi l'actualité ça m'intéresse plus beaucoup, quoi. Je pense que l'endroit du théâtre il est là pour parler du présent peut-être. Mais en tout cas de se détacher de l'actualité, et que c'est, il y a que comme ça qu'on peut aussi amener des clés peut-être sur l'actualité. Donc il y a plein de choses dans mes spectacles qui peuvent faire penser, mais je ne parle jamais de façon précise d'un sujet d'actualité, parce que ça, voilà, je pense qu'on en a assez.
Grave. Tu le qualifierais comment, le besoin de jouer, d'écrire, de se rendre dans une salle de spectacle? C'est une bouffée d'oxygène, c'est indispensable, c'est un pansement, c'est une nécessité. Comment tu arrives à avoir un peu de recul, et parce que tu as quand même vécu, toi qui es, je vais utiliser le terme acteur, pour le coup c'est vrai que tu l'es aussi un petit peu, mais tu es un acteur de cette grande famille qui est la culture, qui a tant de formes, tant de richesses, de diversité. Toi, tu es davantage sur cette partie, cet aspect théâtre, qui déjà en lui-même représente tant de genres, de styles et d'histoires. On a été sevrés, on a été obligés de ne pas faire, on a été obligés de ne pas aller voir, on retouche la chose, on coach des acteurs. Est-ce que ça n'a pas été une purge ou inversement un manque qui a failli toi te détruire, parce que j'imagine que chacun face à cette situation a vécu la chose différemment, mais j'imagine que ça a pu en détruire certains, d'autres l'air gonflé à bloc. Donc il y a plusieurs questions dans ma question, excuse-moi. Simon, mais c'est vrai que avant tout, toi, comment tu vois cet aspect-là, l'importance d'aller voir une œuvre et de rêver, et de s'échapper, parce que quand tu en parles ainsi des étoiles, moi ça me donne qu'une envie, c'est d'aller la voir, ton œuvre. Ouais. Poésie, conte, jeu.
Ouais. Ouais, c'est une période qui est terrible pour tout le monde, pour nous particulièrement, mais pas que pour nous, pour les restaurateurs, pour les gens de culture, ça a été très très dur, parce que on ne pouvait plus voir notre seul roi, qui est le public. Le public est notre roi. On fait tout notre travail pour le public, et on a été sevré du public pendant quand même un paquet de temps. Donc ça a été très difficile. En même temps, quand on a réouvert les lieux, le fait de retrouver le public a été une joie incroyable. Après, je pense que le public, et je le comprends tout à fait, peut avoir un peu peur de revenir dans les salles. Je crois que sur la moyenne nationale, il y a moins 30%, ouais, moins 40% de remplissage.
C'est exactement ça.
Que ça soit pour le théâtre ou pour le cinéma d'ailleurs. Donc
concert aussi.
Donc c'est voilà. Et je le comprends vraiment. Je le comprends complètement. Après, moi, j'ai la sensation, plusieurs choses pour essayer de répondre à toutes tes questions. J'ai la sensation que le théâtre, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle des humains viennent voir d'autres humains sur scène qui les rappellent à leur humanité. Pour moi, c'est ça le théâtre. Et c'est un geste, c'est complètement dingue quand on y pense, comme dispositif. Des gens qui viennent s'asseoir dans une salle noire pour voir d'autres hommes, d'autres femmes leur raconter des histoires. C'est un truc complètement dingue. Et je pense que notre société, moi je crois terriblement au théâtre. Il y a des fois on peut entendre des gens qui disent que c'est presque un art anachronique, un art un peu ancien. Moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est vraiment l'art du 21e siècle. Parce que c'est un des derniers arts, avec la musique évidemment. La musique, elle a quelque chose de presque... on est plus proche de la divinité avec la musique. C'est un art, c'est une parole universelle. Mais le théâtre, bon, ça existe déjà depuis quand même un paquet de temps maintenant, des millénaires. Et ce geste de venir voir d'autres humains nous rappeler à notre humanité, en vrai, sur l'instant présent... On peut jamais attraper une représentation théâtrale. C'est quelque chose qui ne fait que périr. C'est quelque chose qui ne peut jamais s'attraper. D'ailleurs, souvent, les captations de pièces de théâtre sont assez ratées. C'est pas pour rien. Parce que la magie, elle s'échappe. Eh bien, je crois que c'est essentiel, d'autant plus qu'on est dans une société où on parlait de l'actualité qui nous noie. C'est une société aussi où il n'y a que des écrans. Et le théâtre est un des derniers endroits où il n'y a pas d'écran. Et donc, je crois que ça, c'est très, très important. Et puis, la dernière chose par rapport à ça, si je devais définir mon rapport au théâtre, je dirais que pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est quand même de penser à divertir le public, qui ne s'ennuie pas. Moi, j'ai un rapport à ça. Et puis, pour moi, le plus beau, quand je vais voir des pièces avec d'autres gens, c'est d'avoir une sensation que la pensée commune, tous ensemble dans une salle, s'élève au regard d'une pièce. Et ça, je trouve que c'est des très très beaux moments quand ça existe. Quand moi je vais voir une pièce et en sortant, je me dis ça m'a fait toucher ailleurs. C'est vraiment ça que je cherche.
Merci Simon Falguière, auteur, acteur, metteur en scène, Les Étoiles actuellement. Joué au Théâtre Le Gendre, c'était la première en terre hébroïcienne hier soir. Elle a déjà un petit peu tourné, il l'a expliqué tout à l'heure. Dans le nord, vers Lille, Tourcoing, ouais, si je m'abuse, Toulouse aussi, la Ville Rose, qu'on dédicace et qu'on apprécie tant aussi. Mais voilà, première en terre hébroïcienne pour cet enfant de la balle, cet hébroïcien. Les Étoiles, ça donne très envie. Ce soir, 20h, hein, si je ne m'abuse, et ouais, demain, 17h samedi.
Exactement.
Voilà. On s'accorde une dernière pause musicale avant de conclure, mais merci pour ton regard sur cette famille ô combien indispensable qu'est la culture. Un morceau découvert pendant les fêtes de fin d'année. Magnifique. Ah. S'il te plaît. Tout à l'heure, on était en 66.
Ouais.
Là, on est en 68.
I pulled into Nazareth, just feeling about half past dead. Just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? Just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load to freeze. Take a load off Fanny. And you put the load right on me.
I picked up my bag and went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around.
Take a load off.
Moses, there's nothing that you can say. It's just old Luke, and Luke is waiting on the judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee?
You said to do me a favor, son. I want you to stay and keep her in a LA company. Yeah.
Take the load off, Fanny. Take the load for free. Take the load off, Fanny.
And put the load right on me.
Crazy Chester followed me, and he caught me in the fog. He said, I will fix your rack if you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him whenever you can, come on.
Take a load off.
Take me on down the line. Cause my bag is sinking low, and I do believe that it's time to get back to Miss Fanny. You know she's the only one. She sent me here with the regards for everyone.
Incroyable.
Ouais, c'est de la bombe. Hein.
Ah bah oui, s'il te plaît, Simon, ce morceau est dingue. On est en 68. Voilà, The Band, c'est un groupe canadien. Et en fait, bah, je sais pas comment ils se connaissent. Ils se rencontrent avec les Staple Singers. S'il te plaît, j'ai bien dit et je le redis, The Staple Singers avec Mavis, cette voix de dingue. C'est la plus jeune des filles de la famille Staple. Et du coup, voilà, en 68, ils sortent ce morceau qui se nomme The Wait. Franchement, il y a une vidéo, allez la voir, allez, le morceau est pharaonique, hein, permettez-moi, je vais être complètement disproportionné, et c'est pas grave, parce que le morceau est complètement dingue. Voilà, c'était sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR, et si t'étais en douté, bah, il y a toujours ça pour te le rappeler.
C'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio, alors, sans être... Oui.
Principe Actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah, merci de toutes ces précisions.
HDR, Principe Actif.
Simon Falguer avec nous depuis 8 heures pétantes. Merci encore à toi d'être présent. On a abordé plein de choses dont cette œuvre, on rappelle, hein, si vous venez de nous rejoindre, que tu proposes, que tu soumets au roi, le public. J'ai beaucoup aimé cette métaphore, en tout cas cette idée. Au Théâtre Le Gendre, alors franchement, vous êtes de Louviers, vous êtes de Bernay, vous êtes des Anglis, vous êtes même de Rouen. S'il y a bien un endroit à découvrir à Évreux et qui vous fera pas suer, c'est pas une enseigne à quatre lettres près du cadran, c'est bel et bien le Théâtre Le Gendre, près et accolé à l'Hôtel de Ville. Voilà, Les Étoiles, œuvre que tu présentais hier soir, demain, aujourd'hui et demain. Simon, dans ce monde qui va si vite, mais aussi un auteur... Je pense que tu écris toujours, même lorsque tu présentes quelque chose, tu as toujours des idées. Un cahier, t'es une tablette.
Plein de carnets. Plein de carnets,
c'est ouais. Le carnet à l'ancienne, hein, quand même, merci. Il y a déjà des choses que tu en rends envie, sans trop en dire, ou il y a déjà même des choses déjà établies parce qu'il y a des accords passés avec certaines scènes nationales, avec des projections et...
Alors il y a deux grands projets, enfin il y a des projets dans tous les sens.
Ah, c'est cool.
Ouais. Il y a des projets dans tous les sens. La première chose, c'est que je vais terminer l'épopée théâtrale dont je te parlais au début, le Nid de Cendre.
D'accord. Avec 17 comédiens.
Voilà, c'est ça. Donc là on va être plus d'une trentaine sur le projet et je vais enfin faire l'œuvre dans sa totalité comme je l'ai toujours rêvé. Ça va durer 13 heures. avec Entracte. Ça sera au festival.
C'est mieux.
ça c'est mieux. Ça sera au festival d'Avignon Inn et c'est vraiment pour l'instant c'est l'œuvre de ma vie quoi. J'y ai tout mis. Donc voilà, on va terminer ça.
C'est
en juillet.
Un peu de dans le théâtre Avignon.
Ouais, je pense.
Et le Inn, ça veut dire que c'est officiellement c'est à l'affiche et tout.
Ouais, exactement.
D'accord.
Ouais,
merci de la précision.
Ça c'est fait. Donc ça c'est le premier gros boulot. Qui va me prendre, enfin qui me prend déjà toute ma tête et tout mon temps. Ensuite, je vais créer un solo l'année prochaine, qui va s'appeler Morphée.
Ça va pas être un stand-up.
Non, ça va pas être un stand-up. Ça va être une sorte. C'est un solo qui va parler de la métamorphose de la nature, une sorte de solo presque de clown aussi, et dans lequel je parle aussi d'un lieu parce qu'on ouvre un lieu avec la compagnie dans l'Orne. Un ancien moulin, une ancienne usine qu'on a racheté et qu'on est en train de refaire en théâtre. Donc ça, c'est toute une aventure qui vraiment porte ma vie en ce moment. Et je parle aussi de ça dans ce spectacle-là. Et puis je monte un spectacle aussi avec les jeunes du Conservatoire National de Paris, qui s'appelle Le Rameau d'Or. Et puis après, il y a les autres spectacles de la compagnie qui tournent. Donc il y en a dans tous les sens.
Ouais, bah, j'ai l'impression. Hein. Il est occupé. Merci, Simon. Allez, quand même, un petit souvenir, voilà, ton 33 ans, acteur, comédien, auteur, mais metteur en scène, mais il y a forcément des petites choses comme ça qui piquent et qui font du bien, un retour public, une remarque d'impro qui t'a touché sans que ce soit vraiment un compliment, bah en fait, c'en était un. Il y a déjà des petites choses comme ça marquantes.
Alors je réfléchis, oui, bien sûr, il y en a plein, je réfléchis à quelle serait la meilleure anecdote. Je vais te raconter une, c'est que j'étais... Quand je faisais le Nid de Cendre, quand je voulais monter le Nid de Cendre, aucun directeur de théâtre ne voulait y aller. Parce que ça coûtait très cher, que c'était, ça durait déjà 6 heures. Enfin, les gens me disaient, mais non, t'es fou, on va pas le faire. Et donc, au bout d'un moment, j'ai failli abandonner. Parce que j'y croyais plus. J'avais dû faire, je sais pas, 50 rendez-vous pour essayer d'y arriver. Ouais. Et j'arrivais pas. Et je vais voir l'acteur John Arnold qui joue dans Les Étoiles. Je vais le voir et j'étais vraiment déprimé. Je lui dis, tu sais, à mon avis, John, je vais pas y arriver. Et il a tapé sur la table, il était pas content. Et il m'a dit Simon, le dernier reste debout gagne. Et ça m'a marqué à vie. Et quelques jours après, j'ai relancé une lecture, j'ai réinvité tout le monde et la production a pu se lancer.
Le dernier restant debout
gagne.
Merci. Merci John. Merci Simon. C'était un plaisir. Amis auditeurs, auditrices, le Trianon Transatlantique reprend la semaine prochaine au Cléon. Et la traverse, ce sera aussi dans 15 jours. Il y a aussi des concerts au Silo à partir de la semaine prochaine à Verneuil-sur-Avre, à Louviers aussi, voilà, au Moulin ou au théâtre ou à la Gare Musique. Des choses qui se déroulent surtout en terre bruxelloise, c'est Les Étoiles avec Simon Falguer, c'est ce soir 20h et demain 17h. Merci Simon, on est obligé de couper, ça va vite.
Merci
ça.
Beaucoup.
Hey, vous retrouvez Jean-Jean lundi matin, la suite des programmes sur antenne d'HDR et de Principe Actif, c'est tout au long de la journée. Simon, c'était super. Merci. Hey, bye bye, bye bye, bye bye. Yeah.